Si j'ai fait des fautes, mais j'espère que mes idées vont être bien communiquées chez vous. Et si vous me permettez, je voudrais rester pour contrôler aussi l'ordinateur. Je vais vous parler 40-45 minutes. Avant, je veux faire une introduction du contexte où j'habite, où je produis de l'art. Et après, je vais vous montrer quelques de mes projets. Et avec des images. Et après ma présentation, je suis totalement ouvert à répondre à votre question, à vos questions. Si vous avez des choses à commenter, on peut avoir une discussion, je crois que, j'espère, intéressante. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une carte politique de l'Europe centrale et sud-est, de 1975. Voilà, ils sont presque 35 ans ont passé. Et bien sûr que la carte politique de l'Europe du Sud-Est s'est changée totalement. Ils sont des pays qui n'existent plus, ils sont des pays nouveaux qui ont apparu après 1990. Parce que l'année 1989, c'est une année importante, c'est une année où le changement politique de l'Europe de l'Est ont commencé. C'était une avalanche de changements, parce qu'on le sait très bien, dans l'Union soviétique, il est venu au pouvoir un nouveau leader communiste qui s'appelait Mikhail Gorbatchev, et qui était un sort de leader réformiste qui a compris que le système communiste ne peut pas être assez compétitif de point de vue technologique avec l'Occident. La bataille était perdue, les ordinateurs ont gagné. Et Mikhail Gorbatchev avait développé une politique qui s'appelait glasnost, transparence. Il a essayé de réformer le système communiste. En 1986, il avait réussi à introduire dans le bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique le vote secret. Et le vote secret a donné la possibilité d'introduire dans le bureau politique, qui était un bureau politique des gens très très âgés, une nouvelle génération des leaders politiques. Et immédiatement, ces changements, le vent de l'esprit de changement avait bien sûr arrivé à tous les pays satellites de l'Europe de l'Est. Après 4 ans, qui ont été très très intéressants pour moi comme un Roumain, en vivant en Roumanie, un pays qui était à ce temps-là une dictature, il était une dictature communiste. L'année 89 dont je vais vous parler était une année de changement parce que en 2 mois, tous les pouvoirs communistes ont tombé. En Roumanie, il était un changement de pouvoir très sanglant. 2000 gens ont été morts dans une semaine. Une moitié de ces gens ont été des étudiants. Moi, j'étais avec des étudiants dans les rues, pas dans la première ligne, mais ils ont été des étudiants, ceux qui ont été bien sûr tués. Et c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier toute la vie. Après 1989, le premier changement important qui s'est fait était la réunification de l'Allemagne. En septembre 1990, l'Allemagne se réunit. L'Allemagne de l'Est se réunit avec l'Allemagne de l'Ouest. Et dans le même temps, c'est l'année que les guerres de Yougoslavie ont commencé. Le premier pas, ça s'est passé.
Ici, c'est la Yougoslavie. Ici, c'est la Slovénie. La Slovénie qui est la maintenant République indépendante de l'Union européenne, riche, la plus riche pays de l'Europe de l'Est. Et ils ont déclaré l'indépendance de Belgrade. Il était en
guerre de 2 jours, avec 3 morts. Après, l'armée fédérale yougoslave s'est retirée. La deuxième guerre yougoslave avait commencé en 1992. C'était une guerre entre les Croates et les Serbes. Après, la merde avait commencé avec la guerre entre la Bosnie, parce que la Bosnie était une région multiethnique, multireligieuse, était en guerre entre les musulmans contre les Serbes, entre les musulmans contre les Croates, entre les Croates contre les musulmans. Et la plus douloureuse, most painful, douloureuse situation est Srebrenica. À Srebrenica, c'était un village, une petite ville, en Bosnie, où plus de 10 000 Serbes bosniaques ont été assassinés. Ce village était un village qui devrait être protégé par air par l'armée française et par terre par l'armée hollandaise. Et ils ont laissé les armées des Serbes bosniaques entrer dans le village. Ils ont séparé les femmes, les enfants et les hommes. Et les hommes ont été tués dans une nuit. 10 ans après Srebrenica, le gouvernement hollandais avait démissionné après une enquête, après le finalement d'une enquête. C'était bien sûr 1 mois avant les élections, mais c'était un geste symbolique que le Premier ministre hollandais avait démissionné en acceptant la culpe qu'à Srebrenica, ils ont laissé un génocide exister dans l'Europe, parce que entre Belgrade, par exemple, et Paris, c'est 2 heures de vol, c'est rien. Il existe d'autoroutes. Entre Vienne et Belgrade, c'est peut-être 10 heures par la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? La Tchécoslovaquie s'est divisée, bien sûr, parce que c'était une révolution de velours. Il n'était pas un seul étudiant qui s'est brûlé, dans la planète centrale. C'était une révolution, on peut dire comme ça, pacifique, sans avoir des problèmes. Alors, toute cette carte n'existe plus. Mais vous pouvez me questionner pourquoi cet homme nous parle de la politique. Parce que je crois que toujours un artiste doit se légitimer dans un contexte. Qui je suis? Voilà. En 1990 ou 92, j'étais un artiste est-européen. En 2000, j'étais un artiste sud-est européen. En 2005, j'étais un artiste sud-est européen des Balkans de l'Est. Et bien sûr, je suis le même garçon, j'habite à 100 mètres d'un arbre qui est près de ma maison. Alors, aussi, tout ce processus complexe de légitimation vient de l'extérieur. Comment toute la région est analysée, et de point de vue bien sûr politique. Et on a maintenant la chance, moi maintenant je peux vous parler, parce qu'il y a un contexte politique qui me donne la possibilité de venir ici. Il y a un capital symbolique, il y a un intérêt pour ce qui se passe dans cette part de l'Europe. Pourquoi? Parce que bien sûr, ils sont des investissements, ils sont d'argent, des fonds d'investissement, et du capital qui est investi dans cette région, parce que cette région, c'est une région avec peut-être 90 000 possibles consommateurs dans le futur. J'ai grandi, et j'habite dans un lieu qui s'appelle Yach. Il y a un petit drapeau à droite, j'espère que vous pouvez le voir. C'est une ville comme Lille, c'est une ville de 400 000 habitants qui a une tradition universitaire. J'ai fait des études d'ingénierie, j'ai étudié pour l'Institut Polytechnique dans mon ville dans les années 80. J'ai travaillé comme un jeune ingénieur à la fin des années 80. Et après le changement politique, j'ai démissionné de cette position et j'ai fait des études d'art. Et j'ai dédié 6 ans de peinture. Et après ça, j'ai commencé à produire, à faire de l'art. Et je crois que, de mon point de vue, quand j'ai fini l'académie d'art, j'étais très, moi et mes collègues, mes amis, mon cercle des artistes, des philosophes et des sociologues, on était très intéressés de qu'est-ce qui se passe dans la rue. Quelle est la relation entre nous, les gens éduqués, et la rue, la réalité politique, économique, sociale. Et nous avons compris que la fonction de l'art, dans une période de changement très fort, c'est de mon point de vue, d'émanciper, d'exprimer la vérité. Je crois que pas d'exprimer la beauté. Alors, je crois que tous ces artistes que vous pouvez voir dans ces expositions, qui peut-être par coïncidence, ils sont peut-être, c'est une inflation maintenant, c'est un peu des artistes roumains à tout point. Ils ont descendu de leur tour d'ivoire et ils sont dans la rue. Ils ont arrêté parler de leur mythologie personnelle hermétique. Ils sont dans la rue. Ils utilisent l'art comme un art de changement. Leur pratique, et c'est une pratique sociale. Et ça, pour ça, ce qu'on peut voir, c'est un art de forte vivacité. C'est un art immatériel. Et j'espère qu'elle va résister, parce que la pression du système artistique, qui est très sexy, va avoir le résultat. Bien sûr, on va avoir que parmi ces artistes, ils vont commencer à travailler avec des galeries. Et bien sûr, leur discours va être de plus en plus domestisé et orienté vers la demande et l'intérêt du marché de l'art. Et je veux vous dire très, très sincèrement, je suis heureux quand j'ai la possibilité de parler dans les écoles d'art. Parce que je crois que l'académie, l'école, c'est l'un des derniers espaces de liberté. Moi aussi, j'enseigne dans une académie des arts, je suis professeur de photographie, et pour moi, c'est très important le fait que je suis là, et j'essaie avec mes collègues de faire une réforme, de faire des changements dans un système éducationnel très traditionnel qu'on est dans notre système artistique. Alors, après cette introduction politico-culturelle, je veux vous montrer des travaux artistiques et... Après, je vais faire des commentaires toujours du contexte Et vous pouvez aussi avoir une idée de ma pratique artistique, comment je pense, comment je prépare, quelle sorte de méthodologie de travail j'utilise et quelle sorte de résultat final j'ai obtenu. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une table de tennis, un ping-pong. Là, voilà, ici c'est un projet que j'ai fait en 2002 J'ai une résidence en Autriche, à Vienne, qui s'appelle Kulturkontakt. Et j'ai resté 3-4 mois en Autriche. Et bon, c'était pour la première fois que j'ai eu la possibilité d'avoir une résidence bien payée. J'ai eu de l'argent. J'ai eu à Vienne un atelier d'artiste, un appartement et un laboratoire photographique. C'était un luxe. Aussi, j'ai eu la possibilité d'inviter ma fille et ma femme, nous avons resté ensemble, c'était aussi intéressant. Mais aussi, et j'ai eu aussi un budget de production qui était quelques 1000 euros. C'est beaucoup. Pour un Est européen, c'est beaucoup. Mais attention, Unilever, la compagnie Unilever, qui depuis 4 ans soutient les grands projets à Tate Modern. Tate Modern, c'est le plus important. On peut le voir, vous pouvez prendre le TGV en 70 minutes, vous pouvez être d'ici à Tate Modern, par exemple, à Londres. Pour l'installation de Olafur Eliasson, ils ont investi 400 000 pounds. Alors, on peut réfléchir à la... qu'est-ce que c'est là? À quoi sert-ça? Quelle sorte de légitimité, quelle sorte de légitimité dont ce sort de l'art? Alors, 2-3 000 euros étaient quelque chose de très, très, très beaucoup pour moi. Et j'ai dit comme ça, j'étais en processus de conscience, et j'ai dit, je suis ici pas que je suis un bon artiste. Je suis ici parce que je viens d'un contexte où j'ai fondé une association artistique et j'ai commencé à faire une biennale d'art contemporain. Aussi, je suis ici parce que j'étais légitimé des contextes. Alors, pour ça, je dois utiliser tout mon budget, pas pour produire un film, pas pour faire les trois beaux images de grand format, qu'on ne peut pas le faire en Roumanie, par exemple. Je veux que mon projet artistique ait d'inviter tous mes collègues. De rester une semaine à Vienne, je paye l'hôtel, le transport, tout. Et quand j'ai parlé, et aussi, j'ai trouvé, j'aime le détournement comme les situationnistes, le texte, le détournement des choses. Et mon détournement était le livre qui s'appelle Mehr Chancen für unsere Jugend, More Chances for Our Young People, plusieurs chances pour nos jeunes. Il était le slogan de Wolfgang Schüssel, le premier ministre autrichien, de ce période-là. En cette période-là, l'Autriche était le grand scandale pour la première fois dans l'Europe riche et démocratique. Un parti qui s'est encore battu à gagner le pouvoir. C'est eux les faits. Le parti de la liberté autrichien, avec un leader, pour le prince ici, le plus jeune et le plus fort, plus sexy. Ils ont gagné le pouvoir là. Et moi, j'ai commencé à résumer avec ça. C'est un parti très sexy. Et à ce moment-là, pour 2 mois, l'Autriche a été suspendue de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une guerre séparée. Et j'ai utilisé ce slogan politique du Premier ministre Schüssel. Et j'ai dit, ok, dans ce slogan, il y a des partenaires qui sont les gens. On peut prendre des moments. On peut utiliser de l'argent public autrichien pour prendre des moments à l'Autriche. Et bon, les gens, les démocrates, le culture comptable, l'univers, c'est un peu difficile, comment est-ce qu'on peut faire ça, mais tu sais, donc il y a un dossier de motivation. Et j'ai fait un dossier, moi je suis un contextuel politique, pourquoi je fais ça, j'ai un excellent curriculum, curriculum, et finalement j'ai gagné. Alors, j'ai fait le transport, j'ai fait les visas, j'ai fait le dentaire, et toutes mes collègues sont venus. À notre riche, et on voulait rester ensemble. Et ça, c'était pour la première fois un succès dans un projet artistique. Donc pour moi, je ne produis
pas des objets avec une matérialité, avec une conscience muséale. Pour moi, je vois que je fais des situations, des choses immatérielles. Je vois que pour moi, l'émotion est liée à une sorte de poésie. Je crois que je fais des situations poétiques entre la performance et. Aussi, j'utilise des objets qui perdent leur sens normal et qui produisent des susceptibilités, qui peuvent produire des différentes relations entre les gens. Et voilà ce que j'ai fait ici. Parce que dans mon livre, on a